un tango, une danse, un baiser et un sourire.
Par les temps qui courent,
ça y est, puis 21h.
Marie Richaud.
Il y a des figures qui nous ouvrent des portes, justement. Parfois, ces figures, ces êtres ne le savent même pas. Quelque chose a lieu pour nous, sans qu'on le sache.
Tout commence par un cauchemar. La mère ne sent pas que l'enfant a lâché sa main. Elle continue de marcher. Elle ne fait que passer, ne sauvera de rien, ne la protégera d'aucun danger. Elle est déjà loin d'ailleurs et l'enfant déjà seul. Voilà, l'enfance est déjà seule au début du livre. Quant à la mère du cauchemar, enfant elle-même, elle trompait sa solitude en inventant sur ses mains un jeu pour s'endormir. Le pouce, c'est le père. Le majeur, c'est la mère. Et les autres doigts, les frères et sœurs. Le monde et les souvenirs se refont aux inventions des rêveurs qui ne disent pas tout, et c'est parfois leur force. Bonsoir Isabelle Carré.
Bonsoir.
Votre premier roman s'appelle Les Rêveurs, il est paru aux éditions Grasset. Bienvenue à vous. Et on
Merci.
Dit, parce que peut-être des gens ont envie d'aller au théâtre, par exemple demain soir, mardi, vous êtes en ce moment au théâtre de l'Atelier à Paris. La pièce s'appelle Baby, elle est mise en scène par Hélène Vincent, on en reparlera tout à l'heure.
J'entends encore l'inflexion de sa voix et je crois sentir l'odeur du parfum dont il s'aspergeait généreusement avant de s'enfuir. Ma mémoire est précise, affûtée, comme si depuis toujours je retenais chaque information, chaque événement, essayais de préserver toutes les sensations, sachant déjà que le moindre détail serait précieux. Dès le départ, j'avais deviné qu'il n'y aurait rien de banal, qu'avec eux, tout serait chargé de rebondissements, de chocs, d'effroi, et quelquefois de chance. Je pressentais, dès l'enfance, quel curieux personnage m'entourait. Je saisirai plus tard leur singularité, leur égoïsme, leur perversité parfois. Je les regardais se débattre devant moi, aussi vulnérables que des scarabées retournés sur le dos. Comment ne pas s'inquiéter de leur folie, de leur complexité ? Il ne s'agissait que de mes parents. En grandissant, notre curiosité préfère se tourner vers d'autres objets. J'imagine que l'habitude, le quotidien, aurait dû atténuer les traits. Pourtant, les observer continuait à me fasciner. Je mesurais les efforts désespérés, nécessaires, pour tenter d'être libre, capable d'inventer leur vie, ou juste pour tenir debout. Je sentais leur désir de se montrer sincère, autant que leur entêtement à rester aveugle. Il y avait du Pirandello en eux. On n'est pas un, on est mille. Et j'aimais, en grandissant, les découvrir si différents. Non, je n'ai pas pris soin de tous ces souvenirs pour les laisser peu à peu disparaître. Ma mémoire n'a pas collecté patiemment, rigoureusement tous ces détails pour les oublier bientôt.
Isabelle Carré, Auriane Delacroix lit un extrait de votre livre qui n'est pas du tout le début, mais qui me semblait dire presque un début possible à votre travail d'écriture, à savoir « Je n'ai pas pris soin de la mémoire, de ses souvenirs pendant tout ce temps pour n'en rien faire. Mmh. » Comme si ce livre-là, Les Rêveurs, venait d'une forme de disposition qui a été la vôtre et qui l'est toujours peut-être, d'une attention particulière au présent qui fabrique des souvenirs.
Mmh. D'abord, je voudrais remercier Auriane parce que ça me touche en fait qu'on lise. Moi, j'ai l'habitude de lire les textes des autres et là, de me retrouver dans cet autre rôle, qu'on lise mon texte, ça me touche beaucoup. Et oui, les souvenirs, pour reprendre cette place qui est habituellement la mienne de comédienne, on travaille avec. Je suis pas très méthode Stanislavski où il faut se replonger dans des souvenirs, dans des émotions pour jouer un texte. Mais malgré tout, on collecte quand même plein de sensations quand on est comédien. rien. On est avide de ça. Et quand on lit quelque chose qui ressemble à une chose qu'on a pu vivre, on la connecte même inconsciemment. Donc peut-être, oui, cette propension à me souvenir fait que voilà, j'ai écrit un livre qui traite de ça et aussi que je fais ce métier-là. C'est sans doute pas par hasard. J'avais beaucoup, beaucoup aimé un livre de Joyce Carol Oates qui s'appelle Paysages perdus, qui est une de ses dernières publications, où elle disait que peut-être un écrivain, c'est quelqu'un qui s'interroge plus qu'un autre enfant sur le mystère des adultes et qui a cette fidélité aux questions d'enfance. Et donc qui a besoin pour ça de récolter le plus de souvenirs possible pour pouvoir peut-être plus tard y répondre.
Poursuivre la réflexion. Oui. On entend bien dans le passage qu'a lu Auriane Delacroix une espèce de vision un petit peu trouble, en tout cas partagée, qu'est la vision de l'enfance, à laquelle va se mêler des visions plus claires, plus clairvoyantes en tout cas, qui seraient des visions d'adultes, puisqu'il y a beaucoup d'époques qui se mélangent dans votre livre Les Rêveurs. Mais peut-être pour parler de ça, comment avez-vous fait dans l'écriture pour retrouver la manière dont un enfant voit les choses, mais ne les comprend pas toujours, ou les comprend très bien, mais les voit différemment. Comment avez-vous retouché ça?
Je pense que là aussi, quand on est acteur, enfin, on joue. Mon métier, c'est de jouer. Donc, il y a forcément une énorme part d'enfance qui est restée présente. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que connaissent tous les comédiens. Quand on voit jouer quelqu'un comme Michel Bouquet, on a l'impression de voir un gosse, en fait, sur scène, et même si c'est un vieux monsieur aussi. Donc, je pense qu'il y a de ça. Il y a une fidélité, une proximité face à l'enfance, l'enfant qu'on a été, qui est toujours présent, un peu comme, je l'explique à la fin du livre, comme les poupées russes, comme les Matryoshka. Tout demeure, en fait. Et cet enfant est là aussi, en moi. Donc, j'ai essayé de me reconnecter à... C'est ce que je dis aussi qu'à l'Uriane, on n'est pas un, on est mille. Et quand on joue, il suffit de tirer le, 77e ou le 28e ou le 100...
Tiroir.
Voilà. Et de le rendre plus présent et de grossir cet aspect-là de notre personnalité. Donc là, j'ai grossi cet aspect enfantin qui est toujours en moi. Et sinon, j'ai essayé... d'inventer en fait des souvenirs, plutôt de rendre le passé présent et de pouvoir le modifier, de faire en sorte que ce passé soit modifiable. J'ai pas du tout eu envie d'être dans une vérité objective, d'interroger les gens, de chercher dans des archives, d'être dans une recherche comme ça d'une vérité vraie, si tant est qu'il y en ait une, mais d'être au contraire dans l'imagination, de prendre en fait des petits points vraiment très précis qui me restent de ma mémoire et de faits avérés, voilà, et puis tout le reste, tous les traits qu'il y a entre ces points de suspension là, de les remplir avec de l'imagination.
C'est pour ça qu'au départ, je disais que les souvenirs et le monde se refont à la force des inventions des rêveurs et qu'ils ne disent pas tout et que c'est peut-être là leur force. Un des chapitres, Isabelle Carré, dit votre étonnement à entendre l'auteur Laurent Mauvignier dans un entretien révéler peut-être le point brûlant de l'origine de sa création, c'est-à-dire dire un endroit de vérité quasiment pur, et vous de sursauter derrière le poste en disant « Mais non, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu livres ça ?» On sent bien que dans Les Rêveurs, quelque chose de vous tient à préserver le point brûlant, qui est mystère.
Oui, c'est exactement ça, vous le dites tellement bien, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que j'avais pas du tout envie d'écrire un livre sur la transparence, en fait, qui pas un témoignage, pas un récit qui dévoilerait tous mes secrets, enfin c'était pas du tout l'idée, un livre révélation comme ça. J'avais envie de raconter une vraie histoire, une histoire romanesque. Alors ça c'est vrai, c'est la réalité, elle l'est au départ, mais de grossir ce trait-là et de me permettre tous les détours de mon imagination, d'avoir cette liberté en fait de trahir la vérité et d'aller m'égarer sur des petits chemins perdus.
Qu'est-ce qui vous a fait sursauter en entendant Mauvignier dans cet entretien dire quelque chose qui vous paraissait être une vérité à ne pas dire?
En fait, c'était pas tant que c'était à pas dire, mais je me suis inquiétée pour lui. Je me suis dit, mais je sens bien que c'est, comme vous le dites, vous l'avez souligné, c'est le point brûlant. Et je me suis dit, ça c'est vraiment ce qui l'a poussé à écrire. ce qui a fait qu'il a eu envie de comprendre les êtres humains.
En l'occurrence, il parle du suicide
de son père. De comprendre les êtres humains. On parlait du mystère de Joyce Carol Oates. Ce mystère-là, comment ça fonctionne, quoi. D'ailleurs, quand on est comédien, c'est tout à fait aussi ce qui nous occupe. On est des spectateurs privilégiés de l'âme humaine et on est en train de se dire « Ah oui, si j'avais été dans telle situation, comment j'aurais réagi ? Pourquoi ce personnage qui est un petit peu loin de moi, mais quand même qui me ressemble, pourquoi lui réagit autrement ?» Comment on est fait, quoi ? C'est vraiment mettre les mains dans le cambouis et essayer de comprendre comment ça marche. Et là, je me disais « Oui, il est en train de toucher à son secret, celui qui le fait écrire, celui qui fait qu'il continue. Bon, il a écrit ce roman magnifique, Continué, quoi. Et c'est ça qui le fait avancer, en fait, qui le fait...
Et le révéler, ce serait peut-être arrêter l'élan.
Et le révéler, voilà, j'ai eu peur de ça, effectivement. Je me suis dit, alors... mais c'était une question. C'est une question, j'étais pas sûre de moi. Mais j'avais envie d'en parler avec lui. Et ce qui est chouette, c'est qu'on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps et on en a parlé.
Ah oui, alors qu'est-ce qu'il en dit ?
Et alors, ça ne l'a pas du tout arrêté. Il a été touché d'ailleurs par ce que j'ai écrit dans le livre à propos de ça. Et au contraire, sa confiance dans l'écriture, non, ça n'a pas été le choc, enfin la rupture que j'imaginais. Au contraire. Et c'est tant mieux.
Est-ce qu'on dit souvent que la vérité, c'est prendre une responsabilité quand on est auteur ? La fiction, c'est en prendre une autre. Lorsque vous dites, Isabelle Carré, que vous avez pris de la liberté par rapport aux faits pour recomposer un peu vos souvenirs d'enfance, vos souvenirs d'adolescente, mais aussi peut-être les souvenirs d'enfance de votre mère, les souvenirs d'adolescence de votre mère. Est-ce que ça vous a semblé une grosse responsabilité de réinventer ces vies ?
Une responsabilité, oui, parce que ça touche pas que mon histoire à moi. D'ailleurs, en fait, les moments qui sont le plus proches de la réalité, c'est quand je parle de moi. Quand je parle de l'hôpital psychiatrique, ou quand je parle de mon désir d'être comédienne, ou quand, voilà, c'est tous ces sujets abordés qui me concernent sont les plus réalistes dans le livre et les plus proches, les plus fidèles à la réalité. Mais quand je parle de ma famille, j'ai fait exprès, en fait, de faire en sorte que ça devienne des personnages, que je m'éloigne de ce qui s'est passé réellement. Et ça, je l'ai voulu pour les protéger aussi. Pour brouiller les pistes. Alors, ils ont réagi d'une façon ambivalente. D'un côté, ils étaient soulagés que je brouille les pistes, effectivement.
Mais c'était plus leur vie, totalement.
Voilà, exactement. Donc, c'était un mouvement d'abord, premier abord de reconnaissance et de soulagement. Et d'un autre côté, bon, ben oui, mais c'était pas comme ça. C'est pas comme ça que ça s'est passé du tout. Et du coup, le sentiment, je pense, pour eux, l'envie de se réapproprier l'histoire et de la re-raconter telle que l'ont vécu.
C'est cette idée de transmettre à un moment. Peut-être j'ai écrit pendant 30 ans, une bonne trentaine d'années. Est-ce que j'ai appris quelque chose ? Est-ce que... Et en même temps, je ne suis pas leur professeur. Je leur dis que je ne suis pas professeur. Hein. Je ne suis pas un professeur de mathématiques. Il n'y a pas des problèmes avec des solutions qui sont là. Je ne sais pas. Donc, j'en sais rien. Simplement... Faites-moi lire ce que vous faites et je vous dirai ce que j'en pense. Simplement, je ne vais pas faire de vous un écrivain, mais je peux vous faire gagner du temps, je peux vous éviter des erreurs, je peux vous montrer à peu près ce que vous n'avez pas encore exprimé, mais que je sens chez vous. Donc moi, c'est simplement, je parle avec eux. Au début, le premier atelier, c'est plutôt des exercices un peu simples. On fait qu'est-ce que c'est que les styles indirects, indirects, une émotion sans la nommer, comment on s'y prend pour en parler. Puis c'est des discussions et je les fais parler en groupe. Et l'atelier, c'est un endroit exceptionnel pour un écrivain aujourd'hui. Moi, je regrette de ne pas avoir connu ça au départ. Mais l'idée, c'est de leur faire gagner du temps, je crois. C'est énorme. Vous pouvez partir sans vous en rendre compte. Et encore, vous voyez, c'est ça. L'idée que vous avez 12 personnes qui se réunissent et il n'y a pas d'enjeu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de publication au bout. C'est simplement des gens qui sont comme vous et qui ils ont fait un travail. Ils aimeraient bien savoir, avoir des avis. On en tient compte, on n'en tient pas compte, mais il y a 12 personnes qui vont vous dire, là, je m'ennuie, ou non, c'est génial. Et à vous, après, de prendre cette matière et d'en faire ce que vous voulez.
C'est la voix de Philippe Dian, au micro de Sylvain Bourmeau, en 2016, dans l'émission À Voix Nue. Isabelle Carré, vous avez suivi, vous, des ateliers d'écriture, ou peut-être un, avec Philippe Dian, je ne sais pas combien. En tout cas, lui, il dit éviter des erreurs et gagner du temps.
J'ai été en fait pendant 3 mois, c'était la première session en fait de l'atelier, j'ai pas fait les autres sessions parce qu'après je voulais être
toute seule
dans ma solitude et surtout en fait j'avais pas envie d'être dirigée. qu'on me donne trop d'avis, justement, comme l'évoque Philippe. Parce que comme comédienne, je suis dirigée. On me dit tout le temps, bah ouais, un peu plus comme ci, un peu plus comme ça. Non, là, tu en fais trop. Ou là, j'aimerais que le sentiment soit plus celui-là. Ou... Et là, justement, dans l'écriture, c'était mon espace de liberté. Et j'avais envie de, voilà, d'être face à moi-même, face à mes propres doutes, face à mes interrogations et ne surtout pas prendre conseil, enfin voilà. Donc, mais par contre, ce premier atelier, cette première session, voilà, pendant 3 mois, tous les jeudis soirs, ça a été merveilleux. Effectivement, ça m'a fait gagner du temps, moi qui... Ça faisait 20 ans, en fait, que j'essayais. Donc,
c'était l'heure d'en gagner.
C'était le moment d'en gagner un peu. Et c'est vrai qu'en fait, ce qui m'a aidée, c'est le fait d'avoir des travaux à rendre toutes les semaines et de devoir travailler quotidiennement. J'avais perdu en fait ce que je faisais avant. J'ai commencé un journal quand j'étais gamine et jusqu'à 27-30 ans, j'arrêtais pas d'écrire quotidiennement. C'était même parfois des espèces de logorées où je racontais à peu près tout ce qui me passait par la tête, ma journée. Mais j'écrivais aussi des petites nouvelles, des poèmes. Enfin voilà, il y avait une grande production. Et puis ça s'est tassé parce que ça a même quasiment arrêté. Je pense parce que ce métier m'a comblée, m'a permis de m'exprimer, en fait, ce métier de comédienne. Et c'était aussi inhibant d'être face à des grands textes et de se dire, de prétendre en écrire après à son tour. Et d'un côté, l'écriture me manquait, d'où cet atelier d'écriture qui s'appelle quand même « Marcher sur la queue du tigre ». Ça porte bien c'est tout à fait ce que je voulais faire. C'était bien ça, le projet, marcher sur la queue du tigre.
Est-ce que vous aviez très 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 peur que le tigre se retourne et qu'il vous avale?
Ben en fait, j'avais très peur surtout de une fois de plus m'arrêter. C'était ça surtout qui me faisait peur, de pas aller au bout de mon geste, d'être encore dans cet état de faire des tentatives. Je sais bien que Beckett dit on ne fait que rater, rater mieux. Mais enfin là, j'avais vraiment envie de rater mieux quoi. Enfin d'aller au moins au bout de cette histoire et de pouvoir la raconter, d'avoir un début, un milieu, une fin, de pas avoir ces morceaux épars rangés dans un placard.
Quand Philippe Jean, quand vous dites que lors de ces ateliers d'écriture, vous aviez des choses à rendre d'une semaine sur l'autre, mais ça participait d'un travail que vous faisiez pour un manuscrit où vous deviez rendre des choses qui n'avaient strictement rien à voir.
Alors on avait un manuscrit à rendre, enfin c'était, je sais plus si c'était 10 ou 15 pages qui étaient publié mais en interne chez Gallimard, comme une sorte de cahier. Et c'est là où j'ai écrit le début de Pantin. Sinon, à part ça, on avait...
Donc Pantin, c'est le passage chapitre de la vie qui est une vie quasiment oubliée, une vie à part de votre mère et qui est le début des rêveurs.
Oui. Enfin, on va dire d'un personnage qui ressemble à ma mère, une fille mère à la fin des années 60 qui reçoit l'injonction familiale de... abandonner son enfant, de le faire adopter parce que donc l'homme avec qui elle était est parti et elle vient d'un milieu aristocratique et ça ne se faisait pas d'être enceinte dans ces conditions-là et du coup elle doit se cacher dans une chambre de bonne à Pantin. C'est tout ce que je savais en fait. Ça se résume à ça, ma connaissance de ce fait avéré, là pour le coup, mais j'avais pas d'autres indications. Si ce n'est évidemment que, bon, elle a pas, finalement, elle a gardé cet enfant. Et qu'elle a rencontré mon père à ce moment-là. Mais je savais rien d'autre. Et donc, je me suis mise dans la peau de... C'était très étrange, en fait, de se projeter. Imaginez vous projeter dans la peau de votre mère quand elle avait 18, 17, 17 ans. Et imaginez la voir vivre dans une situation aussi terrible que celle-ci, dans une petite chambre de bonne, perdue, devant se cacher, devant sortir le moins possible, et puis avec au bout de la ligne, l'idée qu'elle pourra pas garder cet enfant qu'elle porte. Donc j'ose pas dire jeu parce que c'était bouleversant en fait, c'était pas un jeu dans le sens joyeux, c'était quelque chose de bouleversant de se mettre dans cet état d'esprit, dans essayer de comprendre ce qu'elle pouvait vivre avec ces faits-là autour d'elle, cette cloîtration, enfin cette... Voilà, donc c'était assez passionnant à faire et ça je l'ai fait, j'ai commencé à le faire donc pendant l'atelier d'écriture. Et ensuite je suis partie en tournage au Japon et là c'était aussi très étrange pour moi parce que ce Japon, c'était le Japon du décor de mon enfance. L'appartement était entièrement rouge. Il n'y avait pas de porte, il y avait des tissus japonais parce que mon père en fait était designer et travaillait beaucoup au Japon. Donc l'appartement petit à petit est devenu un appartement japonais. Pourtant, j'avais jamais été au Japon et j'ai continué ce livre voilà, dans un décor qui me faisait penser à celui de mon enfance.
Là-bas, dans le lointain, les neiges. Quelle mémoire! Ça fait 100 ans que je suis pas passé à l'Olympia, mais alors... Mais pas changé. Dans son délire, il lui revient. La fille, Jean-Pierre, la fille qu'il aimait. Il s'en allait, main dans la main, il la revoit quand elle riait. Tous te feront un blanc manteau où tu pourras. Tu pourras dormir. Elles te feront un blanc manteau où tu pourras dormir. Dormir, dormir. Voilà, voilà sans doute à quoi il pense.
Quand mes parents, enfin j'ai eu un autre enfant après, et quand mes parents l'ont appris, enfin je leur ai annoncé qu'ils ont bien voulu me recevoir, mais c'était à condition d'arriver tard le soir et de passer par derrière pour pas être vu quand même. Et ils étaient pas, c'était pas exceptionnel, hein, c'était les filles mères ou mères célibataires étaient quand même mises au banc de la société, c'était général.
J'étais fille d'instituteurs de campagne qui devaient être exemplaires vis-à-vis du curé, du prêtre, etc. Qui avaient donc des principes extrêmement rigides au niveau de la vie affective et de la sexualité. Par exemple, le code soleil que j'ai appris moi-même en étant enceinte. Comme chacun sait, faire l'amour, ça fatiguait. Donc il faut faire l'amour que le mercredi soir qui était la veille du jeudi et que le samedi soir. Donc il fallait être exemplaire en ce sens qu'il fallait vraiment que ce soit très très codé. C'était la guerre en Algérie. J'ai pas pu faire autrement que de tomber amoureuse probablement de l'homme qui se battait pour les libertés des autres. Il était très urbain, très, très dans le cinéma, donc lui très cultivé pour moi, qui ne savait même pas téléphoner à l'âge de 19 ans, donc, parce que issu de milieu rural. Et très vite, je me suis rendu compte que j'étais enceinte, et bien formée par la laïque, j'ai eu le courage, et il le fallait, de l'annoncer à mes parents. Pas un mot de la journée. Et le soir, je reprenais le train pour rentrer à l'école normale. Ma mère m'a seulement dit cette phrase, « N'oublie pas de remplir tes papiers de sécurité sociale. » Alors, pendant les vacances, malgré tout, je suis restée chez mes parents. Je potassais toute seule de comment accoucher. C'était le début, l'accouchement dit sans douleur. À partir de la naissance de l'enfant, mes parents m'ont laissé m'organiser toute seule. C'est-à-dire que c'est le père d'une jeune fille que je connaissais pas beaucoup qui m'a accompagnée en voiture à la maison maternelle. Et quand on a sonné, on a entendu une voix tonitruante pour dire « c'est une gestante ou c'est une mère ?»
Isabelle Carré, c'est un extrait d'un documentaire diffusé sur France Culture et signé Perrine Kervan et qui posait la question des filles mères. Mmh. On entend bien cette femme qui parle d'un contexte, notamment de la guerre d'Algérie, et qui dit qu'elle s'est entichée forcément de l'homme qui allait partir, la rendant seule et assez impossiblement seule dans une société où c'était pas possible de dire qu'elle attendait un enfant. Et il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là dans votre roman Les Rêveurs. Vous parlez à plusieurs moments d'un autre temps, d'un temps où être homosexuel en société était impossible. Attendre un enfant lorsqu'on n'avait pas de mari, lorsqu'on était jeune femme, était impossible. Mm-hmm. Vous faites état de ça. Alors, toute fiction, bien sûr, entendue, mais n'empêche qu'on a l'impression que vous allez quand même chercher un paysage d'époque. Quoi.
Oui, c'est le roman d'une époque et c'est un roman d'apprentissage au milieu de ça, c'est-à-dire comment la liberté pour certaines personnes peut devenir une très longue conquête. Bien sûr qu'on cherche tous notre liberté. Bien sûr qu'on fait avec les injonctions familiales, avec, vous savez, cette façon dont on vous définit. C'est le curieux de la famille. Ah ben, elle, c'est la timide. Ah ben, lui, voilà. Puis on est estampillé comme ça. Et il faut évidemment, chacun a un travail à faire pour se sentir libre face à ça. Mais quand on a encore plus lourd, en fait, de poids, de pas seulement familial, mais d'une société qui avance lentement, à un moment donné, je dis d'ailleurs, il faut du temps, encore du temps, et il en faut toujours, quand je pense qu'il y a encore aujourd'hui cette association qui, Dieu merci, existe. Mais enfin, comment se fait-il qu'elle ait la nécessité d'exister, cette association qui s'appelle Le Refuge et qui doit recueillir les jeunes adolescents ou jeunes adultes homosexuels qui sont rejetés de leur famille parce que leur famille a découvert qu'ils l'étaient, qu'ils étaient homosexuels. Moi, ça me semble complètement incroyable, en fait, d'imaginer ça possible encore aujourd'hui. Déjà, d'imaginer ça possible dans l'absolu, parce que votre enfant, il est ce qu'il est. Et on doit, enfin normal, on doit, oui, enfin j'imagine pas qu'un cœur de mère ne puisse pas être touché, aimer les qualités, les défauts, qu'il soit blond, roux, homo, enfin, hétéro.
Sauf à être prise, le cœur de mère, dans un maillage serré qui serait un maillage sociétal, un maillage historique, un maillage culturel.
Le regard des autres.
Le regard des autres. Et c'est ça que vous décrivez. Vous décrivez la rencontre de deux personnages qui seraient un père et une mère, et qui, de la narratrice, et qui se rencontrent pour un peu s'abriter pendant un moment, quoi.
C'est ça. C'est tous les deux se sont réchauffés un moment. J'écris cette phrase-là, oui, parce que en fait, ce sont deux êtres qui n'avaient pas grand-chose en commun. Déjà, bon, ils sont d'un milieu socio-culturel absolument opposé. La mère vient d'un milieu aristocratique, le père vient d'un milieu simple, cheminot, garde-barrière, petit fonctionnaire dans une petite mairie de province, enfin couturière, voilà. Et puis ce père va peu à peu pouvoir assumer son homosexualité. Cette femme est encore à penser à plus ou moins fréquemment à son premier amour disparu, à ce qu'elle vient de traverser quand même, cette épreuve de devoir se cacher, de devoir être dans une lutte pour garder son enfant. Mais peut-être, oui, le point commun entre ces deux êtres, c'était le manque d'un vrai regard. Justement, ce regard dont je parle, où on aime son enfant pour ce qu'il est, on ne projette rien sur lui, on ne l'encourage pas à aller dans telle ou telle direction, à avoir telle ou telle vie, à ressembler à telle ou telle espérance qu'on désire pour lui, mais simplement à le laisser libre, à le laisser vivre et à le regarder, à l'écouter en fait. Et ces deux êtres-là, sans doute, oui, c'est une question en tout cas que je soulève, sans doute se sont retrouvés à ce point précis-là, ce manque d'un vrai regard.
Et d'une aspiration à la liberté, vous le dites, cette femme de garder cet enfant malgré son jeune âge, le fait que le père soit loin, et cet homme progressivement pas de découvrir son homosexualité parce qu'il la connaissait, mais de pouvoir vivre avec d'une manière...
La vivre au grand jour.
La vivre au grand jour. Et puis, bon, à un moment donné, leur chemin se sépare et occasionne des choses, mais en tout cas, voilà.
Il y avait un documentaire formidable, puisque vous parlez de documentaire, qui s'appelait Les Invisibles, qui parlait effectivement de cette génération d'homosexuels dans les années 50, 60, même malgré mes 68, qui étaient passés par là, mais enfin, il fallait encore du temps au début des années 70. Rien que le titre, en fait, Les Invisibles, voilà, il fallait être invisible et vivre dans certains endroits, dans certains milieux, honteusement, quoi, poussé par ce poids social. Faut se souvenir quand même que en 1960, je sais plus si c'est 60 ou 62, passe une loi considérant l'homosexualité comme un fléau social, donc à combattre.
Et puis vous rappelez qu'il faut attendre. Voilà, en effet, vous parlez des 343, du manifeste des 343. Mmh. Vous parlez de la loi sur l'avortement. C'est-à-dire que vous faites vraiment un éventail de la possibilité de disposer de son corps, de sa sexualité, de ses amours librement, qui est encore très largement à conquérir. Mais puisque vous mentionnez mai 68, le personnage du père est un homme rattaché à cette époque-là, qui fait vivre ce qu'on peut appeler l'héritage de mai 68, en tout cas le sien, dans la manière dont il éduque ses enfants. De quelle manière ?
Il y a le désir d'effacer en fait le poids de l'éducation telle qu'il l'avait connue et de réinventer les choses. C'est vraiment le moment de tous les possibles, ce passage qu'a été mai 68. Une grande fête, une grande joie, ce que je raconte. Bon, quand en plus on était étudiant aux Beaux-Arts, comme c'était son cas, vous pouvez imaginer que mai 68 était quelque chose d'assez festif et qu'ils y prenaient pleinement part. Mais pour les enfants qu'on était, si c'était ça votre question, je me souviens d'un autre documentaire alors que j'ai découvert quand j'avais peut-être une dizaine d'années, si mes souvenirs sont exacts. Ça s'appelait Le bébé est une personne, avec Françoise Dolto. Et effectivement, on découvrait Le bébé est une personne, quoi. Waouh ! C'était un truc. C'était vraiment une découverte. On pouvait parler normalement à un bébé. On n'était pas obligé de parler un langage bébé. Et il pouvait comprendre. C'était un truc de dingue. Le parler vrai, quoi. Voilà. Et donc, on est cette génération-là. D'enfants de mai 68 qui voyaient ces adultes chercher des nouveaux repères, autant, comme je disais, d'un point de vue éducatif que pour leur propre vie. Donc tout était, sans cadre en fait, rigide. On était des enfants sans ceinture de sécurité, mais aussi sans périmètre de sécurité. On était ces enfants qui allions pique-niquer et ouf, on faisait comme ça et on lâchait tous les détritus de notre pique-nique dans la nature et on repartait. On était ces enfants qui ont fumé vitres fermées dans la voiture. On était ces enfants qui partaient en vélo sur les nationales avec des vélos à petits trous à l'arrière. Et on revenait sain et sauf, Dieu merci. Mais enfin, voilà, il y avait cette idée qu'on suivait et qu'on commençait à découvrir des choses, qu'on testait, alors parfois on allait trop loin du coup dans la parole, parfois au contraire, on était encore ces enfants. Là, de la génération des parents qui reproduisaient quand même des choses qu'ils avaient vécues eux aussi sur les enfants, c'est-à-dire de parler en faisant pas attention qu'il y avait les enfants, parce que de toute façon peut-être ils comprenaient pas, parce que c'était trop complexe. C'était un peu un mélange assez incroyable de ce qu'ils pouvaient reproduire de cette éducation un peu rigide qu'ils avaient vécu eux, et puis d'une grande ouverture où tout était possible, où ce qui comptait c'était d'être libre
et d'essayer
de tenter. Par les temps qui courent, Marie Richeux.
Il y a évidemment quelque chose de très fort dans la manière dont votre livre Les Rêveurs se propose de regarder, sans appui, mais de regarder ce qui se transmet d'une génération à l'autre. Alors vous venez de parler de l'élan, l'ouverture, d'essayer des choses dans l'éducation, notamment après mai 68. Et puis il y a des choses plus secrètes, plus souterraines, comme le motif de ces enfants au balcon et des enfants à la fenêtre et du risque de la mort qui pèse et qui se transmet sans qu'on connaisse exactement l'origine de cette transmission. Comment l'avez-vous écrite, justement, Isabelle Carré ? Comment êtes-vous allée chercher cette manière de faire courir tout au long du livre des enfants qui se penchent par la fenêtre, qui sont au-dessus du vide, voire qui se jettent par la fenêtre ?
Oui, c'est ce que je dis, ce cadre, en fait, qui était très tellement écarté qu'il n'y en avait plus beaucoup. Peut-être ça produisait un désir d'aller voir partout, d'aller courir partout, d'aller se pencher plus au-delà de ce qu'il faudrait, et la conscience du danger, l'excitation de la découverte qu'on peut avoir quand on est enfant, mais aussi la notion, plus ou moins à certains moments, puisque moi j'ai cru que je pouvais voler, donc là la notion du danger je l'avais pas vraiment, il faut dire que j'avais 3 ans et demi. Peut-être aussi, je le dis dans le livre, je m'appelle Icare. Ceci explique peut-être cela. Je ne sais pas, c'est une image assez poétique et assez terrible en même temps. Cet enfant qui imagine non pas prendre son envol en faisant marcher ses bras comme un oiseau. Ça n'allait pas jusque-là, mais que sa légèreté pourrait lui permettre de simplement se déposer comme une feuille dans l'herbe.
Près de sa mère.
Pour aller retrouver sa mère, ouais. Et ce danger, du coup, m'est apparu quand même assez vite. En tout cas, j'en ai fait l'expérience très rapidement, l'expérience aussi de la douleur. Ça, je pense que c'est quelque chose, les enfants qui ont vécu des grandes douleurs physiques, hein, je parle. Hein. Ben oui, le corps imprime ça et je pense que c'est toujours présent. Je pense qu'il y a toujours cette trouille, cette peur. Je sais pas, je suis bardée de peur, moi, mais ça va mieux, hein, ceci dit, mais j'ai fait longtemps avec la peur la plus idiote que j'ai, c'est la peur des microbes et des... Voilà, peut-être aussi parce que je joue au théâtre et que quand on joue au théâtre, eh ben, on doit quand même jouer, même si on a 40 de fièvre, et ça aussi, j'en ai fait l'expérience, et ça
m'a... Comment, dans la fiction, ou dans la vraie vie, je sais plus, vous faites le lien avec un enfant qui est suspendu au-dessus du vide par sa propre mère, aussi à la fenêtre, et qui fait que d'un seul coup, on regarde la tentative de l'autre enfant, une génération plus tard, se jetant par la fenêtre, forcément autrement.
Oui, c'est troublant. Ça fait partie des questions que soulève aussi...
Livre, clairement, quand même.
Oui. Et j'allais dire certaines psychologies aujourd'hui qui essayent de voir ce qui s'est passé du côté des ancêtres et parfois remonter même loin pour essayer de comprendre pourquoi il y a certains blocages inexplicables. Et là, il y a un écho effectivement assez troublant, ce qu'a vécu la mère quand elle était petite et ce qu'a vécu cette petite fille,
ouais.
Voilà, moi, on peut dire, hein, puisque je m'autorise à dire moi quand c'est moi. Je préfère dire le personnage de la mère, le personnage du père, mais pour moi, ça va. Donc, effectivement, il y a une chose troublante de cette mère qui, quand elle est petite, manque d'être jetée par la fenêtre dans un accès de colère par sa propre mère. Moi qui, des années plus tard, à la même fenêtre, a envie de s'envoler pour rejoindre sa mère avec ce même mot à la bouche pour ses deux petites filles. Pardon.
Pardon.
Comme vous le savez, votre cerisier sera vendu pour dette. Les enchères sont fixées au 22 août. Mais ne vous en faites pas, ma bonne amie, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, il n'y a qu'une issue. Voilà mon projet. Attention, s'il vous plaît. Votre domaine n'est situé qu'à 20 verstes de la ville. Le chemin de fer passe tout près d'ici. Prenez votre cerisier, toutes les berges de la rivière, faites-y des lotissements, vous les louez ensuite aux estivants pour leur datia et vous avez, au bas mot, 25 000 roubles de revenus par an.
Je vous demande pardon, mais c'est une bêtise.
Je ne vous suis pas très bien, hier voilà, il y a Alexeïtch.
Les estivants, vous leur prendrez, au bas mot, 25 roubles l'hectare par an. Et si vous faites l'annonce dès maintenant, ma main au feu, que d'ici l'automne, vous n'aurez plus un lopin libre, tout le monde sautera dessus. Bref, félicitations, vous êtes sauvés. L'endroit est merveilleux, la rivière profonde, seulement, bien sûr, il faut mettre un peu d'ordre, faire le ménage. Par exemple, disons, démolir toutes les vieilles bâtisses. Cette maison-là, juste bonne à mettre par terre. Raser la vieille cerisée.
La raser ? Mon cher, excusez-moi, vous ne comprenez rien. S'il y a quelque chose d'intéressant dans toute la province, d'extraordinaire même, c'est notre cerisée.
Tout ce qu'elle a d'extraordinaire, cette cerisée, c'est qu'elle est grande. Les cerises donnent 1 sur 2, et même comme ça, on ne sait pas quoi en faire, personne ne les achète.
Et elle est mentionnée dans le dictionnaire encyclopédique. Cette cerisée.
Si nous ne trouvons rien, si rien ne se décide, le 22 août, la cerisée et le domaine avec, tout sera vendu aux enchères. Hé, décidez-vous donc, il n'y a pas d'autre issue, je vous le jure. Il n'y en a pas.
Je ne suis personne, mais j'ai une autre vie. J'en ai même plusieurs, presque une centaine. Je suis morte si souvent. Ça ne m'a jamais effrayé, il paraît que ça rallonge la vie, la vraie, surtout sur scène. Davantage que sur un plateau de cinéma, je n'ai jamais su pourquoi. J'ai d'abord été ingénue, fille de, puis une femme plus complexe, ambivalente, dangereuse. J'ai perdu la mémoire, porté le voile. Mais j'ai aussi montré mon corps tout entier. J'ai été psychotique. Je me suis prise pour la Vierge. À deux reprises, je suis devenue héroïnomane. J'ai fait une overdose. Des préposés à la morgue m'ont glissé dans un sac en plastique, rapporté de l'Institut médico-légal pour plus de réalisme. J'ai sombré dans l'alcoolisme. Été enceinte sous méthadone. Je me suis fait étrangler. J'ai été une pianiste virtuose, une violoniste médiocre. J'ai rendu vivante la Statue de la Liberté. J'ai été mère avant d'avoir moi-même des enfants. Mère douce, compréhensive, équilibrée, mais aussi mère indigne, dépressive, ambivalente. Toutes sortes de mères qui voulaient s'échapper, s'enfuir, qui auraient préféré ne pas l'être. Je dois pourtant avouer que j'ai une mère limite, m'aider. J'ai refusé plusieurs fois d'être infanticide. J'ai attrapé le choléra. Je me suis tué en avalant du Véronal. J'ai sauvé des gens. En revanche, je crois n'avoir jamais tué personne. Il faudra que je vérifie. J'ai opéré à cœur ouvert, été aveugle, fait semblant dans les scènes d'amour, j'ai trompé. J'ai aimé des drôles de types, tueurs en série, malfrats, éternel étudiant. J'ai adopté, aidé des clandestins, été clandestine moi-même. J'ai donné des sales coups, parfois sans cascadeur. J'en ai pris aussi. J'ai essayé d'être comique aux côtés de partenaires dont c'était le registre naturel. Je me métamorphosais alors en kangourou ou en mascotte. Étais-je plus à l'aise en femme politique incorruptible ? J'ai été juge et avocate, conseillère au planning familial, tenté d'être une secrétaire crédible, puis critique de cinéma, libraire spécialisée en livres rares, ou encore infirmière. J'euthanasiais des gens, je confesse tout de même ici quelques meurtres, car j'avais la seringue facile. J'ai traversé les époques du XVIIIe siècle à aujourd'hui, je n'ai pas encore été projeté dans l'avenir, mais ça peut venir. J'ai vécu la guerre, été paysanne avant de jouer les femmes fatales.
Isabelle Carré, ce sont toutes vos vies alors que vous énumérez puisqu'on dit vous. Ça, maintenant c'est clair, quand c'est vous, c'est vous. Quand c'est les autres, c'est les personnages. Dans ce roman Les Rêveurs, Romain de Bec de Lièvre lit cette énumération avec le saxophone sublime de Colin Stetson et qui commence par « Je suis personne, mais j'ai tellement d'autres vies ». Juste avant ça, on entendait une mise en scène que vous avez reconnue immédiatement et dont il s'agissait de...
De La Cerisaie, mise en scène par Alain Françon, et il y avait, alors on entendait le merveilleux Jérôme Kircher, mais on n'a pas entendu Jean-Paul Roussillon, et en fait moi j'ai vu la dernière représentation de Jean-Paul Roussillon dans cette pièce, et c'était la dernière fois qu'il jouait sur scène, et je peux vous dire que quand il traversait la scène en personnage de Fierce, et qu'il disait « mais ils m'ont laissé », et en fait le personnage est enfermé dans La Cerisaie, et il va s'allonger, il va dormir, et probablement mourir. C'était, mais j'en pleure encore, quoi. C'était incroyable d'assister, en fait, à une telle rencontre entre un personnage, un acteur, la vie qui était la sienne à ce moment-là. Enfin, c'était bouleversant. Et puis, la mise en scène de Françon était dingue, dingue. Puis, c'est une de mes pièces préférées. Et puis, c'est la première pièce que j'ai jouée.
Ah bah, dis donc, je savais pas tout ça en choisissant La Cerisaie de Tchekhov. À vrai dire, tout banalement, j'ai été la chercher pour parler des lieux, pour parler du lien, de l'attachement aux maisons, la difficulté de quitter les lieux qu'on a aimés. Mais je savais pas que c'était la première pièce que vous aviez jouée.
La difficulté de quitter les lieux qu'on a aimés. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me parle tellement. Parce que cette maison d'enfance dont je parle dans le livre, on l'avait en location. Donc, en plus, comme un espèce de loyer 48, elle a été augmentée de 100%. On a essayé de tenir en louant des chambres à des Américaines, à des étudiants. Et puis, on a dû l'abandonner. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on connaît plus ou moins tous, quoi. Ces maisons d'enfance, parfois, dont on peut être, on a avoir la chance d'être propriétaire, mais qu'on doit vendre, comme La Cerisaie de Tchekhov. Et puis, on les abandonne. Et puis, on sait qu'on n'y retournera jamais. J'ai essayé de retourner là-bas. Je suis arrivée en bas de l'immeuble. Et j'ai fait le tour du pâté de maison 15 fois. J'ai attendu que la porte s'ouvre. Il y a des gens qui ont ouvert la porte. J'ai pas osé leur demander. Je leur ai écrit une lettre qui s'appelait aux habitants du troisième étage. J'ai failli d'ailleurs appeler le livre comme ça, aux habitants du troisième étage. Mais, j'ai pas osé leur donner la lettre. Et finalement, c'est en écrivant le livre que je suis retournée là-bas. On peut retourner dans les lieux de son enfance en écrivant, parce que dans les pages d'un livre, on peut vivre.
Est-ce, ça n'est que une chose mauvaise que de devoir quitter ces lieux de l'enfance? Il n'y a jamais du bon?
Ah, je suis sûre que si, parce que c'est bien de... Mais je vous citais là tout à l'heure cette phrase de sur la mélancolie, cette phrase de Victor Hugo. La mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. C'est vrai que moi, j'aime ça, quoi, de retourner dans l'enfance. Et l'écriture m'a permis ça, vraiment, d'être là-bas, quoi. J'ai traversé le salon, j'ai longé le couloir, j'étais dans la chambre de mes parents, je me suis allongée dans la mienne, j'ai écouté la musique que j'écoutais à ce moment-là, et j'y étais. Même pas besoin de donner ma lettre, en fait.
Mille vies, vous le dites dans ce passage que vient de lire Romain de Bec de Lièvre, vous l'avez eu grâce au métier que vous exercez en plus d'écrire. Alors, dans quel ordre, je ne sais pas, ça fait tellement longtemps que vous écrivez, en témoigne les cahiers dont vous parlez dans le livre, Isabelle Carré. Mille vies qui vous ont permis quoi?
D'essayer des choses. Par exemple, j'ai été mère avant d'avoir des enfants, comme je l'écris. Je me suis posé plein de questions. En fait, c'est ça que j'aime. D'ailleurs, c'est pour ça que je préfère le théâtre contemporain que le théâtre classique. Le théâtre classique, c'est bon. J'ai adoré jouer l'école des femmes et c'était merveilleux de rencontrer ce grand metteur en scène et acteur Jean-Luc Boutet. C'est des rencontres aussi, hein. Mais ce que j'aime dans le théâtre contemporain, c'est qu'il nous parle de nos sujets brûlants du jour, quoi. De ce qui nous interroge aujourd'hui. Et comme c'est le cas dans la pièce Baby qu'on joue en ce moment à l'atelier. Et ça nous aide à trouver des réponses. En fait, j'en parle aussi dans le... C'est la même chose pour mon rapport à la lecture. J'en parle dans le livre. Moi, ce que je cherche, c'est un livre vie mode d'emploi.
Mais le livre de Pérec ne vous a pas convaincu.
Non, c'était pas
vous,
le bon.
Vous écrivez que vous rentrez dans les librairies.
C'était pas une vraie vie mode d'emploi.
Vous écrivez que vous rentrez dans les librairies en disant « Mais bon sang, pourquoi personne ne l'a vraiment écrit ?»
Là, il y en a une qui est pas mal, que j'ai trouvée là, il y a deux jours. D'ailleurs, en écoutant la radio, comme quoi la radio nous aide à faire des bons choix, c'est le livre de Douglas Kennedy qui s'appelle « Ces grandes questions sans réponse ».
Et ça vous a aidé à vivre?
Ça, c'est une vraie vie mode d'emploi. Ah ouais, franchement, là, ça, il y a des questions, mais oui, que je me suis posée et qui, il répond formidablement bien à ces questions. Après, je pense que le problème, c'est qu'il faut que chacun trouve sa propre réponse, mais quand même de voir qu'on n'est pas seul, en fait. De voir qu'on n'est pas seul à se poser ces questions-là, de voir que certains ont réussi à trouver une réponse qui leur convient, qui est des réponses qui leur conviennent, je pense que ça nous aide à trouver la piste, quoi. C'est des petits cailloux de petits poussés, en fait.
Que vous mettiez sous l'oreiller. Lorsque vous étiez enfant ou adolescente, les livres, c'était sous l'oreiller pour
c'était
que ça
doudous.
Infuse. Pour
c'était
que quelque chose se
qu'un
passe.
Qu'un ours. C'était une compagnie. C'était, oui, comme je vous dis, être moins seul. Oui, peut-être. Enfin, je me disais que peut-être quelque chose pouvait infuser, un peu comme un sachet de thé dans une tasse. Le livre pouvait infuser peut-être en moi et m'aider à être plus aguerri face à la vie, à trouver des solutions, à être moins idiote, à savoir me battre.
Top of mine. I start to cry. I start to cry. What hero walking? Eternity. From her to eternity.
De la petite fille, Lewis Carroll s'est fait le servant. Elle est l'objet qu'il dessine. Elle est l'oreille qu'il veut atteindre. Elle est celle à qui il s'adresse véritablement entre nous tous. Donc, il faudrait interroger ce qu'on pourrait appeler d'abord le roman mythique, d'un terme vague qui irait prendre ses racines dans tous les sens et bien loin. Il faudrait vite en revenir avec ce repère précieux que justement le pays des merveilles, l'au-delà du miroir, le couple angoissant de Sylvie et Bruno échappés du pays d'ailleurs, ne sont ni des mythes ni du mythe, et que l'imaginaire est à en distinguer. Le texte ni l'intrigue ne font appel à aucune résonance de signification, qu'on appelle profonde. On n'y évoque ni genèse, ni tragédie, ni destin. Alors, comment cette œuvre a-t-elle tant de prise? C'est bien là le secret, et qui touche au réseau le plus pur de notre condition d'être. Le symbolique, l'imaginaire et le réel, les trois registres par lesquels j'ai introduit un enseignement qui ne prétend pas innover, mais rétablir quelque rigueur dans l'expérience de la psychanalyse, les voilà, jouant à l'état pur dans leur rapport le plus simple.
To possess her, therefore not to desire her. Well, not a little girl would just have to go. Go from her to eternity.
D'Alice au pays des merveilles, Isabelle Carré. Du coup, je le dis un peu plus fort.
C'était Cocteau. Mais...
Pour nos auditeurs, Jacques Lacan, qui, à l'occasion des 150 ans de la parution du texte de Lewis Carroll, parle de la figure de la petite fille. Avez-vous eu l'impression de suivre un lapin blanc qui vous disait je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard, Isabelle Carré, en écrivant Les Rêveurs?
Ah oui. Ah oui, alors. Ben oui, c'était mieux vaut tard que jamais, mais enfin c'était tard. C'était tard d'écrire ce livre alors que j'en rêvais depuis 20 ans. Je suis une débutante de bientôt 47 ans et je regrette un peu en fait de pas avoir cette rencontre avec Philippe Jean, cet atelier d'écriture avant, ou alors de pas m'être débrouillée toute seule avant. Mais ce que j'aime dans Alice au pays des merveilles, puisque il est question de ça, j'aime ce que ça raconte sur l'adolescence. Et d'ailleurs, vous l'avez mixé avec une musique qui est tout à fait ce qu'on écoute quand on est adolescent, ce côté un peu rebelle de l'adolescence. Et dans Alice au pays des merveilles, pour moi, ce que ça raconte, c'est vraiment cette difficulté à grandir, quoi. Elle rétrécit, et puis elle regrandit, et puis elle maîtrise plus son corps, et puis elle peut plus passer par elle reconnaît plus les lieux en fait où elle habitait. Elle est devenue trop grande pour ces lieux, et par moments perdue dedans. Et quand on est adolescent, c'est vraiment tout à fait ce qu'on ressent, c'est-à-dire qu'on est plus en adéquation, en harmonie avec. C'est aussi le livre de Dolto, magnifique, le complexe du homard. On n'a plus la carapace, en fait, qu'on avait, la carapace du bébé Omar. Il n'a pas encore sa carapace d'adulte. Il est nu, comme ça, à vif. Et le corps est encombrant, gênant, pas assez solide, où tout à coup, il prend trop de place et on voudrait se cacher dans un petit trou de souris quand on se retrouve au milieu de plein d'adolescents et on voudrait ne pas exister, enfin. Donc, j'aime ce livre et cette écriture de Lewis Carroll, surtout pour ça, pour ce qu'il raconte si bien de cette étape de nos vies.
Alors, il faut relire ou lire Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll et le vôtre, Les Rêveurs, c'est le titre de votre roman paru aux éditions Grasset. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Isabelle Carré, mais juste avant qu'on se quitte, vous disiez en arrivant, il faudrait quand même dire que je suis au théâtre. Alors, on dit que vous êtes au théâtre en
oui,
ce moment.
Oui, et surtout dire les autres.
Ben oui, on va dire les autres, mais en tout cas on dit. En ce moment, c'est donc Baby, mise en scène par Hélène Vincent. Vous êtes au Théâtre de l'Atelier à Paris avec Bruno Solo, Vincent Deniard, Cyril
Couton
et Camille Japy.
Qui a fait l'adaptation de la pièce. Oui, j'aime bien citer tous mes partenaires parce que vraiment, alors s'il y a un lieu où on ne peut pas jouer tout seul et où il faut qu'on chacun se renvoie la balle le mieux possible, c'est au théâtre. Tout seul, on est rien du tout.
Et puisque vous disiez tout à l'heure que dans cette pièce-là, comme dans beaucoup des pièces du théâtre contemporain, on travaille des enjeux du moment. Et alors pourquoi cette pièce-là, elle travaille des enjeux du moment ?
Elle parle de l'adoption, le début du livre, le début des rêveurs, voilà, c'est fait un écho assez étonnant en fait. Mais c'est toujours comme ça en fait, c'est pas étonnant. Je pense qu'on choisit jamais des pièces par hasard et tous autant qu'on est d'ailleurs dans la distribution, on s'en est parlé. Et, voilà, Hélène Vincent qui a fait la mise en scène a elle-même adopté un enfant, Bruno Solo aussi. Enfin, il y a toujours des résonances qui font qu'on va vers une pièce, voilà, parce que ça parle encore une fois aussi un peu de nous et que ça nous aide à avancer. Et cette pièce-là parle d'adoption, parle du coup d'abandon, parle de pauvreté, de différence de classe, là aussi, de gens très pauvres et de gens, au contraire, qui peuvent tout s'offrir, y compris un enfant.
Et vous êtes donc sur scène, et par exemple, demain, c'est tout à fait possible de venir vous voir, demain
oui,
soir.
Demain soir, c'est possible.
Merci beaucoup, Isabelle Carré.
Merci à vous. Merci.
Yuki wa furu Anata wa konai Yuki wa furu Omoi kokoro ni Munashii yume Shiroi namida Tori wa asobu yoru wa fukeru anata wa konai iku ga yondemo shiroi yuki ga tada furu bakari.
Vous êtes trop fort, Adamo en japonais quoi. Non, parce qu'il y a du Adamo dans mon livre et puis il y a du japonais aussi et vous avez fait un mix trop fort.
Par les temps qui courent, qu'est-ce qui vous fait rire ?
C'est pas Adamo en japonais, je trouve ça émouvant. Qu'est-ce qui me fait rire ? J'aime bien le burlesque moi, le côté peau de banane, ça marche toujours chez moi.
Par les temps qui courent, quelle route prendre ?
Celle qui ressemble plus à ce dont vous avez rêvé.
Par les temps qui courent, qui regardait avec attention ?
Les enfants ?
Tous les enfants ?
Ouais.
Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h sur France Culture et quand vous voulez sur franceculture.fr ou en podcast. Ce soir au son, c'était Bruno Gagnère-Fontani à la réalisation Olivier Guérin. Jeanne Aléos, Oriane Delacroix, Romain de Bec de Lièvre m'aident à penser cette émission et je réponds en français. @MarieRicheux sur Twitter.
Konnichiwa. ありがとうございます。